Tano.
Le monde est à moi.
Le monde est à toi.
Le monde est à lui.
Le monde est à elle.
Le monde est à vous.
Le monde est à nous.
Le monde est à nous.
Téléphone rose. Téléphone rose.
On m'a dit, je chuchote, je chuchotais.
Alice Milo, Pauline Mocor.
Bienvenue à toi, bienvenue à vous.
Le monde est à nous.
On est bien tous ensemble.
Ils sont 20 jeunes, ils ont entre 18 et 25 ans et ils sont tous hyper connectés. Mais pour s'exprimer aujourd'hui, exceptionnellement, ils ne sont ni devant leurs écrans, ni devant un clavier.
Mais dans un studio.
Chaque dimanche, on se donne rendez-vous, même heure, même endroit.
Sur RFI.
Et derrière la vitre, il y a Victor qui balance les sons et en plateau, les deux femmes de l'ombre.
Salut, moi c'est Alice.
Salut, moi c'est Pauline.
Et tous les trois, on est là pour guider l'équipe dans cette aventure radiophonique.
Mais le monde est à nous, c'est aussi toi qui nous écoutes.
Et tu peux nous suivre.
Tu dois nous suivre.
Sur les réseaux sociaux.
Alors reste connecté, on est là.
Aujourd'hui, on parle de la jeunesse sous influence 2.0.
Parce que l'influence virtuelle peut avoir des conséquences bien réelles.
Alors comme d'hab, on se réunit dans le salon de Pauline pour se demander, ça veut dire quoi influencer ? Endoctriner ? Impressionner ? Qui influence qui ? Sur quel réseau et comment ?
Bah, par exemple, tu te souviens, il y a 4 mois, quand Lou a dit qu'elle mangeait des algues et qu'elle aimait ça parce que c'était bon pour la santé ? Eh ben, figure-toi que depuis 2 semaines, Oumar s'est mis aux algues. Je veux dire, il mange des algues. Bah ça, c'est typiquement de l'influence.
Ah ouais, c'est ouf. Alors qu'au début, Oumar était trop choqué quoi. Genre manger des algues, il trouvait ça hyper chelou.
Tu dis chelou toi maintenant?
Bah ouais meuf, c'est trop frais quoi.
Non mais Alice, c'est quoi ce vocabulaire? Tu sais que j'ai les tympans délicats.
Mais arrête avec ton langage châtié, t'es trop une ancienne toi. Franchement, tu me fous le seum.
Oh là là, je crois qu'on a un sérieux problème. Hein. Tu fréquentes trop les jeunes toi, ils ont des teints sur toi. Ils t'ont carrément contaminé.
Mais trop abs, ils m'inspirent tu vois.
Je vois. Je vois surtout que tu te radicalises et qu'il va falloir agir et vite. Hein. Alors, je me connecte sur Internet, je tape « influence jeune 2.0 » et je trouve 2 experts en la matière que j'appelle tout de suite à la rescousse, Thomas Huchon, journaliste à Spicy, et Fanny Georges, enseignante en sciences de la communication à l'Université Paris 3. Fanny Georges, Thomas Huchon, bonjour.
Bonjour.
Thomas, Lou et Oumar, salut à vous.
Salut.
Salut.
Et juste avant de démarrer, tout de suite des nouvelles, les nouvelles du jour avec Pauline et Xavier.
Un visiteur venu d'ailleurs.
Dans les vraies infos de 19h, actualité chargée. Avec mon confrère, on s'est fait un petit résumé des événements passés cette année et certains points nous ont paru bizarres.
Très bizarres même.
Une fin d'année 2015 bouleversée, un début d'année 2016 mouvementé, et face à tout ça, un gouvernement sous l'eau. Voyez-vous où je veux en venir ?
Tout à fait, Pauline, ça coule de source. Notre président de la République, François Hollande, est noyé par les événements. Pour le 68e anniversaire du débarquement, durant l'été 2012, il était sous la pluie. Sur l'île de Sein, 2 ans plus tard, pour la célébration des 70 ans de la Libération, encore sous la pluie. À Mayotte en 2014 pour sa visite officielle, devinez quoi ?
Toujours sous la pluie.
Il convient d'ajouter évidemment que pendant les manifestations contre la loi travail, la pluie n'a cessé de tomber. On se demande bien pourquoi, à 1 an des prochaines présidentielles et pendant les manifestations, la Seine a débordé frôlant les records de la crue centennale. Ce qui a amené nos envoyés spéciaux à nous rapporter des images de manifestants se baladant en combinaison de plongée avec une bouteille d'oxygène.
La transition est toute trouvée, Xavier. Oui, c'est vrai. Qui sont les adeptes du milieu aquatique ? Les reptiliens. Et comme de par hasard, qui est-ce qu'on a retrouvé en combinaison de reptiliens au Super Bowl ?
Beyoncé.
Bingo. Et d'ailleurs, figurez-vous, mon cher Xavier, que d'après nos informations, Beyoncé est en fait morte et a été remplacée par un clone.
Alors là, ma chère Pauline, vous m'apprenez un truc.
Tout à fait. Selon une source citée par le très sérieux site d'information Combini, la star américaine est morte et a été clonée pour être remplacée par une imposture reptilienne. Un événement incroyable qui montre que l'infiltration des reptiles chez les grands de ce monde prend de plus en plus de place.
D'ailleurs, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, les politiques ne sont pas épargnés. Le premier ministre néo-zélandais John Key en a fait les frais. Il a été accusé d'appartenir à la mouvance reptilienne. Suite à une pétition de courageux citoyens, il a dû prouver son appartenance au genre humain.
Avez-vous plus d'informations sur les moyens qu'il a utilisés ?
Le ministre affirme qu'il a vu un médecin et un vétérinaire et tous deux ont confirmé qu'il n'était pas un reptile mais bien un humain. Il déclare également, je cite, « Je ne suis jamais allé dans un vaisseau spatial ni dans l'espace et ma langue n'est pas trop longue non plus. »
Mais qui nous dit que les deux médecins n'étaient pas eux aussi impliqués dans le complot ? C'est sur cette information que se referme ce vrai journal du monde réel. N'oubliez pas que la manipulation est partout et le complot sans limite. Au revoir et bonne soirée, mesdames et messieurs.
Le grappin m'a choisi. Adieu, mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur.
Est-ce que vous y croyez ?
Thomas Huchon.
Eh ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie histoire, hein, l'histoire du Premier ministre néo-zélandais. Il a vraiment été contraint de se soumettre à des tests cliniques médicaux et vétérinaires pour prouver qu'il ne faisait pas partie des reptiliens. Je tiens quand même à préciser que Beyoncé a plutôt été remplacée par un clone Illuminati que reptilien, mais là on rentre vraiment dans les spécificités de la question.
Mais finalement, cette théorie du complot, d'après vous, est-ce que c'est véritablement devenu un phénomène de société ou...
C'est difficile à mesurer parce qu'on parle d'un phénomène virtuel. On parle d'un phénomène qui se passe majoritairement sur Internet. Et donc, c'est difficile de quantifier, d'établir avec l'aide de travaux sociologiques, de chercheurs, peut-être même de sondages, ceux qui y croient. Il existe un certain nombre de sondages qui ont été faits au cours des dernières années qui indiquent que entre 20 et 50% de notre population serait enclin à croire à une ou plusieurs théories conspirationnistes. Ça veut pas dire qu'ils y croient dur comme fer, et c'est, encore une fois, c'est très difficile. On est dans un domaine qui sort un petit peu du canevas scientifique pour entrer dans le canevas de l'idéologie, de la croyance. Et donc, à part un expert psychiatre, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de journalistes qui soient capables de répondre, est-ce que ces gens croient vraiment à toutes ces inepties qu'ils racontent toute la journée?
Mais par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui circule le plus sur les réseaux? D'après vous.
Bah, effectivement, aujourd'hui, si vous tapez le mot Illuminati dans Google, vous verrez que c'est un mot qui va faire sortir plus de 48 millions d'occurrences. Mmh. C'est absolument énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de contenu qui parle d'une secte qui a existé au 19e siècle, qui s'appelle les Illuminati de Bavière, et qui aurait continué à perdurer au travers des âges et à travers les différentes années pour dominer le monde en secret. Alors effectivement, ils sont très nombreux à croire à tout ça, mais je pense qu'il faut faire un distinguo important, je crois qu'il faut faire le distinguo entre les adultes et ceux qui sont pas encore des adultes. Ceux qui sont déjà adultes et qui propagent tous ces messages, on peut légitimement penser qu'ils y croient un petit peu. Les plus jeunes sont en train de se construire. Donc à la fois, il y a un danger face à la porosité de tous ces discours, qui à la fin sont quand même des discours de haine, hein, il faut pas le négliger. Mais il faut quand même mesurer que voilà, on a quand même affaire à des ados et il faut leur donner aussi l'excuse de l'âge, un tout petit peu.
Alors bonjour à vous deux, moi c'est Omar. Thomas Huchon, avec Conspi Hunter, vous êtes parti à la chasse aux conspirationnistes, c'est une des rubriques de Spicy. Pour lutter contre eux, vous vous rendez dans des établissements scolaires afin de faire de la prévention. D'ailleurs, avec Lou, on vous a suivi à l'ISCOM, une école de pub parisienne. Est-ce que vous pourriez raconter à nos auditeurs comment vous faites cette prévention?
Au cours de l'année 2015, SPICE, donc S-P-I-C-E-E, je le précise pour les auditeurs qui voudraient se rendre sur le site, c'est donc un nouveau média digital qui fait que du reportage et de l'investigation en vidéo. Et effectivement, on a tenu à s'intéresser un peu à nos voisins de palier. Nos voisins de palier sur Internet, c'était bien souvent des sites conspirationnistes. Et donc, on a voulu les tester. On a inventé un faux film conspirationniste, un film qui raconte que le sida a été inventé par la CIA pour lutter contre les Cubains et que tout ça est une immense machination et que la fin de l'embargo que nous connaissons aujourd'hui n'est légitimée que par la découverte du vaccin contre le sida par les Cubains et donc par la volonté des multinationales occidentales aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne de s'approprier ce vaccin. Tout ça, c'est un documentaire qu'on a mis en ligne à la fin de l'année 2015 et ce documentaire, on l'a transformé en un outil pédagogique. Donc comme vous avez pu le constater sur le terrain avec moi, on présente aux élèves dans une classe, sans qu'ils sachent du tout ce qui va se passer, le faux film conspirationniste « Cuba, Sida, la vérité sous blocus ». Bien entendu, la majorité de la classe croit à ce film et tombe dans le panneau du piège. Et du coup, dans la foulée, après en avoir discuté quelques minutes, on leur présente le vrai documentaire qui va déconstruire en 45 minutes la totalité du processus et qui va aussi montrer, pour une fois, et c'est assez rare, les coulisses de la fabrication d'un documentaire et de l'information. Et dans la foulée, on a une discussion discussions très intéressantes sur la manière de se prémunir contre les fausses informations qui circulent sur Internet. Nous, on a baptisé ça l'ascenseur émotionnel conspirateur, parce que finalement, quand on a 15 ou 16 ans et qu'on se retrouve dans une salle de classe, il n'y a pas grand chose de pire que de se retrouver ridicule face à un adulte, surtout devant tous ses copains. Et donc, du coup, ils sont très attentifs dans la foulée parce qu'ils veulent absolument savoir comment faire pour que ça ne se reproduise pas et que demain, ils soient capables de se prémunir contre toutes ces rumeurs qui existent sur Internet, mais aussi contre tout ce que peuvent leur raconter, y compris les médias professionnels qui parfois se trompent aussi.
Bonjour, moi c'est Lou, bonjour à tous. Alors, Fanny Georges, vous étiez ma prof cette année à Paris 3 et c'est pour ça que j'ai pensé à vous inviter. D'ailleurs, moi je vais être honnête, c'est vrai que je porte beaucoup d'attention aux likes sur Facebook, par exemple. Ne rigole pas, Omar. Par exemple, quand je vais changer tous les 6 mois ma photo de profil, bah, je vais essayer de le faire au moment propice où je pense qu'il y a le plus de monde connecté. Et donc, Fanny Georges, finalement, pourquoi notre identité virtuelle, elle est si cruciale pour nous les jeunes?
Alors ça, c'est une vaste question. En effet, l'identité virtuelle, elle est si cruciale pour les jeunes, en particulier pour les adolescents. Mais je le disais tout à l'heure, en fait, en raison de cette phase très importante de l'existence à l'adolescence où on va vraiment construire son identité et quitter son identité d'enfant associée au monde des parents, de la présentation de soi familiale ou à l'école, pour arriver dans le monde adulte. Or, effectivement, les sociabilités qu'on noue sur Facebook ou sur Twitter, enfin beaucoup sur Facebook actuellement, pour ce qui concerne les adolescents, elles vont sortir du domaine familial et justement finalement ancrer l'identité sociale nouvelle de l'adolescent. Donc ensuite se présenter et façonner son identité, ça passe énormément par ces supports de présentation de soi et de façonnage de l'identité que sont les réseaux sociaux numériques. Alors à une époque, on a beaucoup écrit sur Second Life comme espace de façonnage de l'identité. Ce qu'il apparaît, c'est que ce sont des espaces où on va tenter aussi faire des tests, des expérimentations sur soi-même qu'on pourrait pas faire, disons, sur son propre corps. Par exemple, c'est plus facile à imaginer dans Second Life, c'est-à-dire on va tester, par exemple, le port d'un tatouage ou d'une nouvelle coupe de cheveux. Et les adolescents vont utiliser, ou bien de façon de parler. Tout à l'heure, il y avait des jeux de mots justement sur ce langage propre aux jeunes. Et en fait, les jeunes vont utiliser ces espaces comme des espaces de simulation de soi pour tester les résultats d'une certaine attitude par rapport aux autres, d'une certaine façon de parler, de se présenter. Et parmi toutes ces tentatives, enfin, ils vont estimer ce qui est positif ou non, et ils vont aussi se le réapproprier en fait en face à face. Mais en fait, ces espaces fonctionnent vraiment comme des sortes d'espaces transitionnels aussi de médiation de soi et de simulation de soi à cette période si cruciale, de construction de l'identité qu'est l'adolescence. You feel the cold.
c'était Thriller de Michael Jackson sur RFI. À la mort de Michael Jackson en 2009, de nombreuses vidéos ont tenté de prouver que le King of Pop est encore vivant. Celle-ci est la plus récente.
T'as pas chaud, t'es pas, c'est tout.
Mais y a...
C'est qui ça?
Ah, mais y a Michael Jackson.
Non, non, il est mort, lui.
Non, mais non, regarde, mais c'est attends, lui, viens.
Bon, c'est pas la vidéo la plus crédible. En tout cas, de nombreux internautes avaient dénoncé un complot ou hoax. Beaucoup, comme moi d'ailleurs, y avaient cru et je me demandais donc comment auriez-vous pu, Thomas Huchon, prouver au petit garçon en cinquième que son idole est bien morte.
Bonne question.
Ouais, c'est une très bonne question.
Question piège.
Ouais, mais déjà, je crois que la première chose qu'il faut regarder, c'est l'intérêt d'un hôpital, par exemple, à dire ou pas la vérité. En l'occurrence, l'hôpital dans lequel Michael Jackson est décédé a tout de suite, très rapidement, communiqué sur la mort du chanteur. Mm-hmm. La problématique qui naît des circonstances dans lesquelles Michael Jackson est mort, avec un potentiel rôle du médecin qui aurait peut-être utilisé un mauvais traitement.
Conrad Murray.
Voilà, ouais. Volontairement ou non. Alors après, je suis pas non plus un hyper expert de la question de Michael Jackson. Ce que
Merci.
Je constate, c'est que... Non mais je crois qu'il y a deux choses qui sont très importantes, notamment dans un monde hyper connecté et dans un monde dans lequel l'information circule à la vitesse éclair. Il faut avoir parfois l'humilité de ne pas tout savoir. Et il faut aussi avoir l'humilité de ne pas tout comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la possibilité de comprendre et qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Mais c'est pas parce qu'on cherche à comprendre qu'on doit comprendre. Et cette espèce de dichotomie qui est encore plus renforcée par le fait qu'on vive dans un monde dans lequel tout un tas de gens nous expliquent avoir tout le temps compris mieux que nous en permanence et nous le serinent et nous le répètent à longueur de journée, il faut quand même arriver à garder une forme de distance critique. Et finalement, je crois que... Moi, je pars du principe que tant que j'ai pas la preuve d'un élément, hein, je m'appelle Thomas, hein, comme le camarade comme de l'autre côté de la table, comme Saint Thomas, nous ne croyons que ce que nous voyons. Et bien, tant que... C'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'il faut pas croire. Par contre, pour croire, il faut voir. Ça veut dire que tant qu'on t'aura pas montré Michael Jackson vivant, t'as pas de vraie raison de croire au fait qu'il ne soit pas mort.
Après, c'est vrai que j'avais 12 ans, et quand je voyais les vidéos, j'y croyais complètement. Du coup, pour vous, c'est quoi les ingrédients d'une vidéo complotiste réussie?
Il faut des ingrédients immuables, qui sont à la fois des ingrédients de fond et à la fois des ingrédients techniques. Sur le fond, il faut grosso modo un grand méchant. Alors le grand méchant, c'est souvent les États-Unis, Israël, ça marche bien aussi, parfois les Russes, ou à plus petite échelle, le gouvernement, quand on parle à l'intérieur des limites d'un État. La deuxième chose, il faut un acteur un peu louche. Il faut quelqu'un qui tire les ficelles en coulisses. Alors ça, les services secrets sont tout trouvés pour cela. Il vous faut bien entendu une victime expiatoire, parce qu'il y a toujours une victime innocente par définition, mais en plus, de par la volonté maléfique de ce grand méchant qui était le premier élément de la recette. Et enfin, là-dessus, il faut arriver à poser une révélation totalement nouvelle et une réinterprétation d'éléments d'actualité qui vont vous permettre de faire un lien là où vous n'en voyez pas auparavant. Donc là, on est sur la première partie, sur le fond, après sur la forme. Bah écoutez, une photo choc trouvée sur Internet, une musique un peu inquiétante, un ton très martial, mais à la fois dénué d'intention idéologique. Il vous faut, bien entendu, des preuves. Ces preuves, vous en trouverez en appelant votre meilleur copain Google. Il vous faut des images. Pour ça, vous appellerez votre autre meilleur copain YouTube. Et vous arriverez à construire un film qui marche si vous arrivez à respecter un écart très ténu, hein, c'est une gymnastique, mais grosso modo, il faut toujours du vrai, il faut toujours du faux, et au milieu de tout ça, il faut beaucoup, beaucoup d'improbables et d'invérifiables.
Le monde est à nous.
Reste avec nous, on revient dans 3 minutes.
Thomas, Oumar et Lou continuent de se faire engrainer par nos deux invités Thomas Huchon et Fanny Georges.
Juste après le flash et les vraies nouvelles du monde.
Musique.
Le monde est à nous.
Le monde est à nous. Pauline Mocor Alice Milo.
Salut à tous.
Le Monde est à nous, c'est tous les dimanches de l'été sur RFI.
L'émission est fabriquée par 20 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans.
Dans le studio, Thomas Huchon, journaliste à Spicy, un média 100% vidéo, 100% digital.
Et Fanny Georges, enseignante en sciences de la communication à l'Université Paris 3.
Et sous leur emprise, Oumar, Lou et Thomas continuent de s'interroger sur les influences 2.0 qui s'exercent sur les jeunes aujourd'hui.
Et toi, derrière ton poste, détends-toi, tout va bien se passer. Concentre-toi juste sur le son de ma voix. Tes oreilles sont lourdes.
Écoute-nous.
Toute personne ne comprenant pas notre idéologie sera dirigée vers cette vidéo. Merci de votre attention. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.
Lou, tu as une question pour Fanny Georges.
Oui. Alors cette année, on a beaucoup parlé des jeunes influencés par l'État islamique et justement, cet embrigadement, il passe principalement par les réseaux sociaux, allant jusqu'à les pousser à commettre des actes dramatiques. Et moi, j'aimerais savoir si ces recruteurs, ils utilisent les mêmes techniques que celles utilisées par les auteurs de théories complotistes.
Fanny Georges.
Alors, il y a, je pense, beaucoup de techniques qui sont utilisées, effectivement, pour enrôler les jeunes. Celles sur lesquelles je peux, effectivement, dire un mot, ce sont celles qui consistent à draguer des jeunes sur les réseaux sociaux numériques pour leur promettre monts et merveilles et surtout le grand amour.
Et il y a des filles en particulier ou
voilà,
pour les garçons? Non, pour
les filles. Alors, moi, j'ai entendu parler, effectivement, en particulier des filles. En fait, je pense que ces amours romantiques, en fait, qui sont construites par des terroristes à l'autre bout du réseau social, peuvent fonctionner justement parce qu'elles font écho à cette idée romantique et platonicienne, en fait, de nouer une relation vraie et réelle et qui irait par-delà les contingences du corps. C'est-à-dire qu'on va se présenter et croire que la personne se présente telle qu'elle est vraiment et que cet amour, parce qu'il a été construit justement en dehors de toute contingence du corps, ce qui fait aussi l'objet de beaucoup de controverses aujourd'hui, où les corps sont affichés sur les réseaux sociaux numériques, où on critique beaucoup ces corps parfaits qui sont retouchés. Finalement, la relation amoureuse nouée par le virtuel peut paraître plus vraie,
plus pure,
voilà, authentique, que celle qui est nouée parfois en face à face ou avec des gens qu'on connaît déjà. Et finalement, moins la personne va s'exprimer en face et plus on va projeter de choses qui nous correspondent à nous, mais sans s'en rendre compte. Et plus, en fait, ces techniques de manipulation, en fait, vont avoir emprise sur les sujets.
Le monde est à nous. On parle aujourd'hui des influences 2.0.
Et le reportage du jour, c'est Pauline et Lou qui sont allés à la rencontre des élèves du lycée de Madeleine Vionnet. C'est à Bondy, dans le 93. Cette année, ils ont participé à un programme pour être sensibilisés aux théories complotistes. Avec l'aide du réalisateur William Labouri, ils ont créé leur propre vidéo mensongère. Et ça donne ça.
2016. Les chats sont partout. Dans nos maisons, dans nos rues, sur nos écrans. Des milliards de personnes regardent des vidéos de chats sur Internet et vous en faites sans doute partie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ?
Donc voilà, ça c'est la vidéo sur le complot des chats. Donc l'idée de départ, c'était d'essayer de s'emparer des mécanismes, de comprendre comment on construit une théorie des complots et quels sont les mécanismes qui fonctionnent. Et vous allez voir que la vidéo, elle est construite en deux temps. Premier temps, on fait un vrai film complotiste où on explique, sans jamais vraiment le dire, parce que c'est ça la base du théorie du complot, on insinue des choses, mais on n'affirme jamais les conclusions, on laisse les gens croire qu'ils arrivent à une conclusion par eux-mêmes. Mais je vous laisse regarder la vidéo.
Je m'appelle Aïda, j'habite à Val-de-Fontenay et j'ai 16 ans.
Je m'appelle Djaba Sibi et je suis au lycée Madeleine Vionnet de Bondy.
Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans cette vidéo justement ?
On a fait un complot sur les chats.
Bah, on a mis des images mignonnes de tableaux à l'ancienne ou à l'époque de l'Égypte avec les pharaons, des chats et tout. On a mis des trucs scientifiques avec des graphiques où on voit quand on ramasse un excrément de chat. Il y a des microbes qui viennent sur nous. On a mis des images de films dans genre Star Wars, tout ça, où le chat il se transforme en un extraterrestre bizarre.
Est-ce que toi, tu croyais aux théories du complot avant? Ou est-ce que tu regardais des vidéos, par exemple, sur Internet? Ou est-ce que tu en as vu sur les réseaux sociaux en te promenant sur, bah, justement, je sais pas, Facebook ou Twitter?
Oui, moi, j'avais déjà vu plusieurs fois des vidéos sur le complot et j'y croyais. Certaines, j'y croyais et d'autres, j'y croyais pas.
Par exemple, tu croyais auxquelles?
Sur les attentats à Charlie Hebdo, etc.
Et vous dites quoi?
Il y a des trucs, c'est louche quand même. Enfin, c'est bizarre, quoi. Faut se poser des questions.
Quelles questions?
C'est qui derrière tout ça?
Et est-ce que vous avez des réponses?
Pas vraiment.
Bon, on débat, on dit si c'est vrai, si c'est faux. Regarde, je savais pas ça, ils nous ont montré la vérité.
Donc c'est créateur de débat, vous vous dites non mais regarde, il y a ça et l'autre...
Ouais,
a été...
voilà, on fait un débat et on n'est jamais d'accord.
Bonjour, vous êtes professeur de cette classe de lycée. Donc est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du rapport que vous avez avec vos élèves et de ce qui se dit dans les cours de récré? Est-ce que vous avez déjà entendu parler vos élèves de ça justement?
Dans mes cours, il est clair que plus que j'enseigne le français, l'histoire et la géographie, il est quelquefois difficile avec nos élèves d'entrer d'emblée dans le cadre d'une question liée au programme sans avoir des débats houleux avec nos élèves qui peuvent contester un certain nombre de sujets, comme le sujet qui est traité en terminale bac pro sur les attentats du 11 septembre 2001. Et puis bien sûr, dernièrement, les attentats en France qui ont montré et mis en évidence le fait que pour un grand nombre de nos élèves, il y a peut-être manipulation de la part des pouvoirs publics et peut-être même à un autre niveau de voir des attentats perpétrés en France par des groupuscules qui auraient des intérêts. Et c'est donc la raison pour laquelle ce projet est tombé à pic, entre guillemets, puisqu'il s'inscrit dans un climat où nous, en tant qu'enseignants, on a de plus en plus de mal au regard de ces informations et de cette situation qui est difficile en France à asseoir des vérités, parce que nos élèves ont accès facilement à des médias entre guillemets, ou en tout cas à ces vidéos conspirationnistes. Donc nous, on a à combattre ça. C'est un exercice extrêmement difficile, voire périlleux, mais c'est en même temps notre mission. Hein.
Alors je m'appelle William Labourie, je suis réalisateur et monteur. Je sors tout juste d'une école de cinéma, là, il y a un an, de la FEMIS. Et j'ai mené cet atelier avec une classe de lycéens de seconde sur la théorie du complot. Typiquement, on a regardé quelques vidéos conspirationnistes sur les attentats de Charlie Hebdo. Quelque chose de tout simple qu'ils ne connaissaient pas, un outil qui permet de savoir d'où vient une image dans un reportage. C'est Google Images en fonction recherche inversée, qui fait qu'on y importe une image, une capture d'écran de la vidéo. Par exemple, on l'a fait sur une photo de soldats dans une camionnette avec des cadavres qui étaient utilisés dans ce faux documentaire sur Cuba. On a cherché cette image en recherche inversée sur Google. Et on a vu que la plupart des articles où cette image apparaissait traitaient du Vietnam.
Quand William Labourie est venu, donc vous avez regardé donc une vidéo de théorie de complot. Et qu'est-ce que tu t'es dit en la voyant?
Avec une fille de ma classe, on y a cru ça directement. Et après, William, il a dit que c'était faux. Et après, on a dit qu'ils sont trop forts et tout. Et il nous a montré comment faire pour savoir si c'est vrai et faux. Je chercherai un peu plus loin.
En fait, moi, je pense qu'il faudrait faire des vidéos, mais avec vraiment les preuves, les sources, et qu'il y a deux trucs pour faire vraiment attention et pas tout mélanger, en fait.
Les chats prennent le contrôle du monde. Oumar, tu avais une question à poser à notre invité Thomas Huchon.
Exactement. Alors, Thomas Huchon, d'après Najat Vallaud-Belkacem, notre ministre de l'Éducation nationale, un jeune sur cinq aurait adhéré à la théorie du complot suite aux attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que vous pourriez nous dresser, du coup, le portrait robot d'une personne influençable sur Internet?
Non, je pense pas. Je pense que c'est très difficile de dresser une forme de portrait robot, déjà, parce que ça serait d'une certaine manière assez stigmatisant. Et je crois pas que ça soit l'objectif ni de la démarche de Spicy, ni de la démarche du ministère de l'Éducation nationale là-dessus. Ce qu'on peut constater, c'est que il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, les moins de 25 ans sont plus sensibles à tous ces discours parce que ça vient de leur manière de s'informer. On l'a dit tout à l'heure, le premier moteur de recherche d'information pour les moins de 25 ans en France, c'est YouTube. Et quand vous allez taper, 11 septembre dans YouTube, eh ben, on va vous montrer des films qui sont faits par des gens qui ont compris la mécanique de YouTube. Donc des gens qui, depuis 10 ans, ont produit tout un tas de contenu là-dessus. Mais... et qui sont quasiment tous des conspirationnistes.
Et justement, pour ces conspirationnistes, quel est leur intérêt à produire ces vidéos, les politiques, économiques?
Pourquoi ils font ça?
Pourquoi ils font ça, ouais. tout simplement.
Je pense que ça serait pas mal de leur demander, mais je suis pas sûr qu'ils soient totalement honnêtes dans leurs réponses. En tout cas, vu qu'ils sont pas honnêtes dans leurs autres réponses, je vois pas pourquoi on leur ferait confiance sur celle-là. Ce qu'il faut constater, c'est que tout ça, ça génère beaucoup d'argent. Et donc, ça devient un gagne-pain, ça devient une entreprise. Après, certains des producteurs de théories du complot sont aussi des entrepreneurs de politisation et ils s'en cachent pas. Je pense que si vous allez sur le site de Soral, sur le site de Dieudonné, si vous allez sur tous ces sites-là, sur le site de Thierry Messens, ce sont des sites dans lesquels il y a une vision politique du monde. Il y a une narration de notre époque qui est faite avec des bases conspirationnistes, parfois même des bases d'extrême droite, antisémites, racistes, enfin, il y a beaucoup de choses dans tout ça. Mais c'est une interprétation du monde et c'est aussi une manière de conquérir les cœurs, parce que la meilleure façon d'arriver à faire que vous achetiez demain un produit, eh bien, c'est que vous ayez envie de l'acheter, que vous l'aimiez ce produit. Eh bien, cette entreprise de politisation, elle nourrit l'entreprise business pour gagner de l'argent et l'entreprise de business permet la politisation.
Le monde est à nous.
Le monde est à nous. Aujourd'hui, on parle des influences 2.0 sur la jeunesse.
Philippine Elou passe un coup de fil à Claire. Aujourd'hui, elle a 19 ans et elle est étudiante en pharmacie. Et elle est aussi l'auteur d'un blog, Ma victoire pour la vie, où elle raconte qu'à l'âge de 12 ans, elle a traversé une longue période d'anorexie.
Allô ?
Bonjour, c'est Philippine.
Oui.
Tu vas bien ?
Ça va, et toi ?
Très bien. Alors là, je suis en studio du coup chez RFI avec Lou, dont je t'avais parlé.
Mmh. Salut Claire.
Salut.
Quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as raconté que quand t'étais plus jeune, t'avais été atteinte d'anorexie et que t'avais été beaucoup influencée par les différentes communautés sur Internet. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu comment tout ça a commencé en fait ?
J'étais un peu perdue, je cherchais du soutien. Et du coup, comme personne de mon entourage n'était au courant de ma maladie, j'ai cherché du soutien ailleurs et je suis tombée là-dessus. Je tapais tout bêtement anorexie, boulimie dans le moteur Google. Le premier compte sur lequel je suis tombée, c'était une fille qui avait un blog. Donc je suis tombée sur son blog. Elle avait tout un tas de commandements écrits. Alors au début, je comprenais pas trop exactement ce que c'était. Et c'est là que j'ai compris en fait qu'elle appartenait à cette communauté qui était pro-Anna. Donc Anna, c'est le diminutif de anorexie. Elle se présente, elle dit que elle va pouvoir nous aider, que tout notre entourage ne comprenne pas ce qui nous arrive, qu'on pourra trouver le soutien auprès d'elle. Elle nous apprend comment faire, comment arriver à se restreindre, comment savoir dire non quand on nous propose à manger. Voilà, elle nous dit que perdre 10 kilos, c'est bien, que c'est la voie de la réussite, que c'est comme ça qu'on devient libre. Par exemple, un des commandements disait tu dois être aussi maigre qu'on ne puisse pas voir ton pas dans la neige. Je trouvais ça, mais quelque part impossible, en fait. C'était complètement aberrant, mais je sais pas, ça devenait un but, en fait. Mais quand il disait tu dois te contenter de 3 pommes par jour, ben voilà, mon repas c'était une pomme quoi. Dès que je le pouvais, c'était une pomme. Je restreignais au maximum les calories. Je prenais des photos pour le fameux journal qu'on devait tenir, le journal de bord pour voir notre évolution et notre perte de poids, je le tenais. J'avais des photos à l'appui. J'avais les bracelets que je tenais à mon poignet toujours.
Quel bracelet ?
Alors les bracelets Pro Anna qui nous permettent d'appartenir à la communauté, en tout cas qui nous le rappellent et qui sont supposés nous redonner le courage et la force de toujours persévérer.
Pourquoi ces communautés, elles ont marché pour toi ? Pourquoi ça t'a séduite en fait ?
J'étais à une époque où je me cherchais encore beaucoup. Je savais pas qui vraiment je voulais être, comment je voulais devenir, et je suis surtout de nature une personne très très influençable. Je me rendais pas compte que c'était une secte et du coup, je me disais que ces communautés-là pourraient m'apporter un certain amour, dans une certaine mesure, c'est ça. Mais ce qui m'a vraiment attirée là-dedans, c'est qu'elles avaient vécu la même chose que moi. Et je me suis dit, au moins, je parle pas à un mur, je parle à quelqu'un qui va savoir ce que je vis et avec qui vraiment je pourrais avoir des discussions constructives.
Mais justement, c'était quoi cette discussion ? Enfin, qu'est-ce que vous vous disiez vraiment ?
Alors maintenant, quand j'y repense, ça me paraît complètement nul, hein, mais on parlait plutôt de nos journées, qu'est-ce qu'on avait mangé, de si on s'était fait vomir, combien de crises on avait fait, de combien de calories on avait ingurgité, si on avait fait du sport, voilà. Enfin, à la base, ce que je cherchais, c'était un peu des solutions pour m'en sortir de ce problème-là. Et en fait, ça a fait mais tout le contraire, parce que je veux dire, c'est ce genre de communauté, ça, on s'influence les unes les autres, mais on va pas trouver des solutions pour s'en sortir, on va plutôt se conforter en se disant qu'on n'est pas seul et qu'on est faite pour vivre comme ça et qu'en fait on finit par se complaire dans la maladie. C'est un peu un soutien pour finalement pas s'en sortir.
Et finalement, comment tu t'en es sortie ?
Un soir où j'ai fait une grosse crise de boulimie. Et ce sont mes parents qui m'ont pris en flagrant délit. En fait, ils m'avaient entendu et ils m'ont obligée d'arrêter. Et mon père m'a dit ce soir-là, demain, t'as pas le choix, je t'emmène voir une psy et si tu veux pas, tu vas à l'hôpital. Alors moi, forcément, j'avais pas du tout envie d'aller à l'hôpital, donc j'ai accepté de voir la psy et ça s'est révélé beaucoup plus productif que je le pensais parce qu'elle a réussi à me faire changer ma vision des choses et je me suis rendu compte que ces communautés-là, c'était pas vraiment des communautés d'amis, c'était vraiment une secte et qu'il fallait que je m'en sorte, quoi.
Et aujourd'hui, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux, Internet, pour lutter contre cette influence ?
Ah oui, tout à fait. J'ai ouvert il y a quelques mois mon propre blog, mais cette fois-ci dans le but vraiment d'aider les gens. Et je souhaite vraiment que les gens tombent dessus parce que je pense que c'est vraiment une mine d'or quand on cherche du soutien. Et si je peux aider des gens, ce serait vraiment mon plus grand souhait.
Oumar, tu voulais poser une question à Fanny Georges.
Exactement. Je voulais savoir pourquoi, selon vous, on se sent plus proche d'une communauté de gens inconnus, parfois, que de gens de notre famille, de notre entourage.
Comme cette fille qu'on vient d'entendre.
Oui, tout à fait. Eh bien, c'est vrai que dans son témoignage, elle est assez consciente de ce qui lui est arrivé. Et notamment, elle va parler de l'intensité des relations qu'elle peut avoir. Alors, c'est surtout ça, en fait, qui est frappant dans ces relations, ces amitiés qu'on peut nouer sur Internet. C'est que, à la différence des amitiés qu'on noue au fur et à mesure sur un long temps en face à face, eh bien, ces amitiés sur Internet, elles n'ont pas de limite de temps, déjà. Parce qu'on peut à tout moment discuter avec ces personnes et également échanger dans une forme effectivement de liberté de s'exprimer. On sait que ces personnes, elles vont pas les raconter à des personnes qu'on connaît en fait ce qu'on leur a raconté. Donc il y a cette liberté qui est un terreau extrêmement fertile pour la confidence, donc vraiment pour une amitié à la fois intense et fulgurante, justement pour des choses qui sont difficilement partageables avec des gens de notre entourage, parce qu'effectivement le problème de l'anorexie, de la boulimie, ce sont des sujets tabous. Parce qu'effectivement, on va pas raconter à sa famille ou à des gens qu'on connaît qui pourraient avoir un mauvais regard sur nous, effectivement, qui pourraient donner prise aussi à des complots contre nous. Eh bien, en ligne, on a la sensation que ce n'est pas le cas. Et donc, il y a effectivement cette possibilité de reconnaissance. Et on trouve exactement la même chose, enfin, dans les milieux pédophiles ou alors dans les pratiques sexuelles un petit peu limite ou borderline, qui sont extrêmement répandues sur Internet, c'est-à-dire que quel que soit notre point de vue, on peut toujours trouver des interlocuteurs sur Internet et avec qui on va nouer effectivement ces relations extrêmement intenses et gratifiantes qui vont aussi nous donner cette reconnaissance. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce témoignage, on a effectivement l'intervention du parent et du psy qui va briser ce cercle finalement d'intensité. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a dû renoncer à tout ça aussi.
Thomas ?
Oui, alors moi j'ai une question pour Thomas Huchon. J'ai des amis qui me disent que certaines informations leur paraissent complètement trafiquées, voire cachées. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement du coup à ces gens qui doutent en permanence ?
Il n'y a pas grand-chose à dire, il y a surtout beaucoup à questionner. C'est-à-dire que quand on me dit « Ah mais ça, c'est pas vrai, j'ai vu que... » Ah, on t'a vu où ?
Ouais.
Mais t'as vu quoi ? Et qui l'a dit ? Et est-ce que sur le site qui te raconte cette information-là, tu sais qui est le directeur de la publication ? Est-ce qu'il y a un « qui sommes-nous » qui te précise qui sont les gens qui écrivent ? Est-ce que cette vidéo que tu as trouvée sur YouTube, elle est signée ? Est-ce que les sources qui sont utilisées sont créditées ? Bien souvent, toutes ces questions-là suffisent à déconstruire les prémices d'un discours conspirationniste parce que on arrive très rarement à obtenir ces informations-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui nous parle. Après, on peut décider, on peut croire des gens qu'on ne connaît pas. C'est un choix personnel que chaque individu est libre de faire. Et libre à lui d'assumer la responsabilité de ce choix. Moi, je suis là pour donner de leçons à personne. Moi, je sais que personnellement, si je ne connais pas la personne, je ne sais pas qui me parle, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas qui la paye, je ne sais pas quel était son parcours, eh ben, je vais émettre un certain nombre de limites et de retenues par rapport à cette information. Et c'est ce qu'on répète dans toutes les classes dans lesquelles on se rend. Posez-vous des questions, doutez. Mais faites toujours très attention à qui vous donne la réponse.
Posez-vous des questions, le monde est à nous. Et voici venu le moment de la minute de mémé.
Chaque dimanche, un jeune de l'équipe rencontre une grand-mère pour lui demander comment c'était à son époque et quels conseils elle pourrait donner aux jeunes d'aujourd'hui.
Et Thomas, tu as rencontré Janine, 80 printemps, c'est une ancienne institutrice.
Mes petits agneaux, c'est l'heure de faire marcher vos neurones.
Oh, ben j'ai de connaissances et...
Ah oui?
Et on m'appelle mamie.
T'es super.
Bon, alors, allons-y.
Et tu vas voir que personne va me dire merci.
Bonjour, grand-mère.
Moi, quand j'allais au collège, disons dans les années 50, nous avions des blouses, voilà, grises, avec le nom, la classe et tout ça et tout. Alors que maintenant, les jeunes font un concours un petit peu par rapport aux marques de leur sweat ou de leur jean, etc. Et c'est pour ça que je dis aussi que la télévision a un impact énorme sur les jeunes. Ça pousse vraiment à la consommation et ça donne aussi des fausses valeurs. C'est-à-dire que maintenant... Comme je voyage beaucoup dans les transports en commun, bon, je vois tous les jeunes, alors quand c'est pas le téléphone, je sais même plus les noms, comment vous appelez ça, les tablettes, les machins. Donc, ils ne voient même pas ce qui se passe à côté. Au lieu de regarder ce qui se passe, ils sont là en train de photographier avec leur téléphone. Enfin, donc là aussi, il y a une influence. C'est-à-dire que on ne vit plus les choses que par l'intermédiaire de ces outils-là. Au lieu de les vivre pleinement, en regardant, en écoutant.
Est-ce que vous avez des conseils aux jeunes qui seraient sous influence quelconque ?
Moi, j'ai toujours prêché la lecture parce que je trouve que la lecture, c'est ce qui m'a aidée à me créer une certaine façon de vivre par rapport à la société, par rapport aux autres. Il faut trouver les valeurs qu'on veut défendre. Forcément, après, on arrive à être heureux, ou tout du moins, c'est plus facile que de vouloir suivre une mode qui, le lendemain, n'est plus valable, pour plaire à qui, en plus. Non, il ne faut pas rester enfermé. Il faut être critique et il faut être curieux.
Merci, grand-mère.
Oumar.
Alors, Mémé disait qu'il fallait lire des livres, sauf que nous, en 2016, on fait face à tout un tas d'informations autres que les livres, notamment sur Internet. Vous, Thomas Huchon, vous prenez une forme de rigueur, il faut qu'on, tout le temps qu'on soit critique envers nous-mêmes, sauf que souvent, l'argent et le temps nous manquent. Du coup, je me demande, on fait comment concrètement ?
Alors, en fait, en vrai de vrai, les livres en France, ça coûte pas cher. Il y a des bibliothèques absolument partout dans lesquelles on peut avoir des livres gratuitement prêtés pendant une semaine ou deux.
Donc un abonnement chez Spicy.
Un abonnement chez Spicy pour quelqu'un qui a moins de 25 ans, ça coûte 5 euros par mois.
Oumar, 5 euros.
C'est pas très très cher.
5 euros, c'est pas très cher, mais ça dépend pour qui.
Ben, je suis d'accord, ça dépend pour qui. Après, effectivement, c'est malheureusement le prix de l'indépendance. Et c'est aussi parce que des gens acceptent de payer pour de l'information que nous sommes capables de produire une information de qualité. Finalement, il faut jamais oublier quelque chose, c'est que sur Internet, quand c'est gratuit, le produit, c'est toi, Ouma.
Et tout comme le monde, l'heure tourne.
Alors, en guise de bilan, nous posons à cette question à tous nos invités, c'est la question à 20 ans.
Moi je les ai vécus dans l'ombre avec pour seul envie l'amour et puis de dévorer le monde.
Non, je ne regrette rien.
Oumar, à toi l'honneur.
Alors Fanny Georges, Thomas Huchon, quand vous aviez 20 ans, par quoi étiez-vous influencé ? À vous Thomas.
Non, pas toute la culture reggae. Voilà, je portais des dreadlocks et voilà.
On n'imagine pas comme ça.
Non. Moi par la culture gothique. Et j'y suis replongée récemment, travaillant sur la mort. Donc finalement...
Vous avez d'ailleurs un joli haut noir brodé. Hein,
exactement, je me retrouve à 40 ans dans les mêmes problématiques, mais moins sous influence quand même, justement avec ce regard fric.
Vous choisissez. Voilà. Fanny Georges, Thomas Huchon, c'est un rituel pour tous nos invités. On leur demande d'apporter un objet qui parle d'eux. Vous, qu'est-ce que c'est, Fanny ?
Alors moi, c'est un carnet de voyage. Je tiens depuis une vingtaine d'années, justement, des carnets de voyage. Et comme Mémé disait qu'il fallait se remettre à lire, eh bien moi, je dirais qu'il faudrait se remettre à dessiner.
Thomas Huchon ?
Il n'y a plus rien dans l'objet que je vous ai ramené, mais il s'agit d'une bouteille de vin qui est un vin Illuminati, comme son nom l'indique. Et ça rappelle Bah, vous savez, quand on s'attaque aux théories du complot, même si on passe un très bon moment avec vous sur ce plateau, ça génère pas toujours une immense sympathie auprès des internautes. Et effectivement, sur Internet...
Oui, quand on tape votre nom, d'ailleurs, il y a un certain nombre de critiques qui s'affichent.
Non, moi, je appelle pas ça des critiques. Je pense que c'est une forme d'hommage de leur part. Donc, ils passent un temps fou à écrire des choses absolument délicieuses sur moi. Moi, j'ai découvert que j'étais juif, j'ai découvert que j'étais un Illuminati, j'ai découvert que j'étais un reptilien, j'ai découvert que j'étais un larbin du système, voilà. Et donc, en hommage à tous ces gens, eh bien, je bois du vin Illuminati.
Juste avant de se quitter, toute petite séquence de dédicace. Oumar.
À tous mes proches qui m'ont influencé en bien.
Lou. River Phoenix, c'est grâce à lui que je suis végane.
Thomas.
Moi, gros bisous à mon papy qui nous écoute ce soir.
Et mention spéciale pour Victor Hull de l'autre côté de la vitre du studio.
Merci Fanny Georges, Thomas Huchon d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour partager votre influence.
Le monde est à nous, c'est fini pour aujourd'hui.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Kaina, Geneviève, Maud et Pauline parleront des jobs étudiants. Elles se demanderont si les petits boulots sont un piège ou une opportunité.
Et si tu trouves le temps trop long, sache qu'on reste connecté pour toi en permanence.
Sur Twitter, Facebook et Tumblr.
On est partout.
Tu peux retrouver les coulisses de l'émission, la fabrication des rubriques en images et des petites pépites surprises.
Et d'ici là, ne te laisse pas emberlificoter.
Salut à tous.
Salut.
Jusqu'au 20.